Nous continuons à cheminer dans le livre des Actes. Nous avons vu dans les premiers chapitres que l'Église, à ses débuts, vit un temps béni, certes pas sans opposition, car le nombre croissant de personnes qui acceptent l'Évangile, la popularité grandissante des apôtres et des chrétiens sont loin de vouloir plaire aux responsables religieux et du peuple, qui ne supportent pas de voir les apôtres enseigner dans le temple au nom du Seigneur Jésus. Déjà, ils avaient fait arrêter Pierre et Jean en les menaçant et en leur ordonnant de ne plus enseigner la bonne nouvelle. Et nous avons vu dimanche dernier, au début du chapitre 5, la triste histoire du couple d'Ananias et Saphira qui révèle que cette jeune église commence à avoir dans son sein des problèmes internes en relation avec le péché. Mais leur histoire nous montre aussi combien les apôtres et Dieu ont agi pour que l'on sache que dans l'Église, le péché n'est pas toléré. À la suite de cette histoire, l'auteur du livre des Actes, Luc, nous donne encore un tableau descriptif de la situation de cette jeune Église qui progresse et reste attachée au Seigneur. Je vais lire les versets 12 à 16. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, et personne parmi les apôtres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que, lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Luc décrit un temps de bénédiction, un temps bénéfique à l'extension de l'Église. Dans les versets que nous venons de lire, nous apprenons qu'à ce moment-là, la cote de popularité des chrétiens est au top. Il est dit qu'on louait hautement les chrétiens, c'est-à-dire qu'on ne se cachait pas pour en dire du bien, et peut-être même pour les défendre. En plus, de nombreuses nouvelles personnes, une multitude, nous dit le texte, croyaient au Seigneur. En plus, Dieu permettait que beaucoup de signes et de prodiges se réalisent au point qu'il suffisait qu'un malade soit placé sur le passage de l'apôtre Pierre et que l'ombre de celui-ci couvre cette personne malade pour qu'elle puisse guérir. Aussi, une multitude s'empressait, nous dit le texte, de venir des alentours pour apporter leurs malades et leurs personnes possédées afin d'être guéries et libérées. Ainsi, l'Église bénéficiait d'un temps particulier, un temps de bénédiction venant du Seigneur, un temps donc où elle était bénie par Dieu. Mais nous allons voir la suite et nous allons lire les versets 17 à 25. Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadduciens, se levèrent remplis de jalousie, portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens des enfants d'Israël et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un vint leur annoncer « Voici les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Voilà, l'Église bénéficie d'un temps particulier, mais comme elle a déjà vécu cette situation, cette popularité, cette croissance va mener une réaction d'adversité de la part des responsables religieux et du peuple, et des responsables du peuple. Et comme pour la première fois, les autres autorités juives vont vouloir arrêter cette extension de l'évangile, cette œuvre de Dieu qui se répand. Comment vont-ils agir? En faisant encore arrêter les principaux messagers de cette bonne nouvelle, les principaux responsables de ce jeune mouvement, les apôtres. Ils vont faire enfermer les apôtres en prison, mais par rapport à la première fois, Dieu va intervenir en envoyant un ange pour les libérer de façon miraculeuse. Car la première fois, les apôtres étaient restés en prison et furent libérés par les chefs religieux après les avoir fait comparaître devant eux. On peut réfléchir sur ce fait pour comprendre là où les raisons qui ont amené Dieu à envoyer son ange pour intervenir, alors qu'il ne l'a pas fait pour la première fois. Nous allons voir cela en première partie de ce message. Le premier point que je soulignerai dans cette première partie sur les raisons qui amènent Dieu à agir, c'est un rapport avec le degré d'hostilité que rencontrent les apôtres. Les oppositions sont plus importantes ici. Le succès, entre guillemets, que rencontrent les apôtres, le nombre croissant de personnes qui se convertissent, puis le fait que les apôtres continuent à enseigner le nom de Jésus, et cela certainement au temple, malgré l'interdiction. Ce déni de leur autorité, cette popularité grandissante, cette extension rapide des personnes qui deviennent disciples de celui même qu'ils voulaient supprimer, tout cela amène les chefs religieux et les chefs et les anciens du peuple à donc être jaloux et fortement contrariés au point d'envisager d'utiliser la manière forte, la force donc, pour pouvoir donc arrêter donc ces apôtres zélés. Aussi, face à ce danger sérieux, Dieu intervient puissamment en faveur des apôtres pour faire échouer les projets maléfiques de ses adversaires. Et cela peut expliquer pourquoi la première fois Dieu n'est pas intervenu, car le danger était moindre. Cela nous donne une explication sur pourquoi donc Dieu intervient miraculeusement, parfois pour libérer ses enfants, et d'autres fois, il n'agit pas. On voit que face à des hostilités terribles, des persécuteurs puissants, Dieu agit en manifestant sa puissance et sa souveraineté. C'est ainsi qu'il a fait du temps, par exemple, de Moïse, en libérant l'Israélite par les 10 plaies, 10 plaies spectaculaires, hein, donc, qui sortaient de l'ordinaire, qui ont touché le puissant oppresseur égyptien. On le voit du temps aussi d'Élisée, où Dieu manifeste à son prophète sa présence à ses côtés, alors que l'ennemi syrien, avec une grande armée, l'encerclait pour l'arrêter et le supprimer. Dieu montre à Élisée et à son serviteur qu'il a envoyé son armée avec ses chevaux et chars de feu pour frapper d'aveuglement l'armée syrienne et faire stopper les menaces donc sérieuses envers Élisée. On voit l'intervention exceptionnelle de Dieu aussi du temps de Daniel, où Dieu envoie son ange pour soutenir les 3 compagnons de Daniel qui ont été jetés dans une fournaise de feu parce qu'ils avaient refusé de rendre un culte à la statue du roi babylonien Nebuchadnezzar. Ainsi, face à une menace importante, et on pourrait citer d'autres exemples bibliques, Dieu peut envoyer un ou des anges pour intervenir en faveur de ses serviteurs, afin d'agir miraculeusement à leur égard. Le Seigneur peut le faire aussi, et c'est une raison que je ne développerai pas, il peut le faire pour montrer à ses adversaires qu'il est bien le Seigneur, tout-puissant, au-dessus d'eux et victorieux sur eux, surtout quand les adversaires de Dieu se placent au rang de Dieu, ou persiste à résister à l'œuvre que Dieu veut faire. Ce qui est le cas ici dans notre histoire, où ces responsables religieux s'obstinent donc à refuser de reconnaître que Jésus est le Christ. Mais vous noterez que j'ai dit que Dieu peut intervenir, ce qui veut dire qu'il peut aussi ne pas intervenir. Car nous le savons, Dieu peut aussi laisser ses serviteurs vivre des épreuves, des souffrances et même la mort causée par des adversaires hostiles à sa personne et à ceux qui le servent. Cela nous pousse à réfléchir à d'autres raisons que nous pouvons trouver dans notre histoire qui expliquent l'intervention miraculeuse de Dieu. Un autre facteur qui amène Dieu à agir envers ses serviteurs peut se trouver dans la situation de cette église qui démarre. Nous pouvons voir que son extension et sa croissance sont en lien avec le témoignage des chrétiens et particulièrement celui des apôtres qui étaient les témoins directs de ce que Jésus avait vécu, ce qu'il avait fait et ce qu'il avait enseigné. Leur témoignage reposait sur du vécu avec celui qu'ils annonçaient. De ce fait, leur témoignage était unique et parlant. De plus, nous le voyons, Dieu utilisait les apôtres pour manifester des miracles qui témoignaient ces miracles que Dieu était avec eux. Cette action bienfaisante de Dieu à l'égard des hommes appuyait donc leur témoignage. Ces hommes avaient donc une mission particulière, car le Seigneur voulait s'en servir pour établir son Église. Et au stade donc de cette église qui naît et qui avance et qui progresse, donc Dieu va tout faire pour que rien donc n'atteigne cette extension. C'est pourquoi il intervient pour empêcher qu'on nuise à ses serviteurs qui étaient tellement utiles à ce démarrage de l'église. Aussi, quand l'ange délivre les apôtres, il leur dit au verset 20, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple ». Toutes les paroles de cette vie. On voit bien que Dieu voulait qu'ils accomplissent leur mission. Là encore, l'histoire sainte nous donne donc bien des exemples pour donc montrer que quand Dieu veut qu'une chose se réalise, que rien ne l'empêche, il peut intervenir miraculeusement. Donc, on voit bien d'autres interventions divines en faveur de ses serviteurs dans les moments particuliers en lien avec son dessein pour son peuple. Ainsi, on revient à Moïse face à Pharaon, mais aussi David face au roi Saül et d'autres adversaires, puis aussi le prophète Élie face au roi d'Israël, infidèle et hostile à Dieu. Ces hommes seront par moments gardés par Dieu de façon miraculeuse pour qu'ils puissent accomplir la mission que Dieu leur avait confiée. Cela souligne pourquoi Dieu intervient miraculeusement par moments. Et encore aujourd'hui, il intervient par moments pour garder ses serviteurs, afin qu'ils puissent continuer leur œuvre, leur témoignage pour lui. Enfin, il y a aussi une autre raison qui explique la façon de faire de Dieu. C'est de se rappeler que lui seul sait ce qui contribue à l'accomplissement de son plan pour son Église et pour l'humanité. De ce fait, il agit pour faire accomplir son dessein selon sa préscience. Selon sa pleine connaissance, il agit pour amener à ses fins en laissant faire ou en ne laissant pas faire ses ennemis. Cela explique que nous ne comprenons pas tout ce qui peut arriver par le moyen des adversaires de Dieu à l'un ou l'autre ou à nous-mêmes. Car nous ne connaissons pas tous les aboutissants, les enjeux et ce qui fait que Dieu permet ou pas l'épreuve. C'est pourquoi nous pouvons nous attendre tout à la fois à ce que Dieu agisse puissamment envers ses enfants et envers nous, et lui demander, d'ailleurs, c'est légitime, qu'il agisse ainsi, qu'il agisse puissamment à notre faveur. Mais aussi, nous devons accepter que nous ne saisissons pas tout dans la façon de faire de Dieu, pour que son plan s'accomplisse, même quand il permet à l'adversaire de frapper ses serviteurs, ses enfants. Mais allons donc maintenant plus loin dans notre texte pour aborder la deuxième partie de ce message en lien avec ici la position que les apôtres vont prendre face à l'adversité. Ils vont donc prendre cette position d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, quoi qu'il en coûte. Et je vais lire ici les versets 26 à 42. Alors le commandant et les gardes partirent et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Alors, après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit ainsi que les apôtres. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes, car il n'y a pas longtemps que se leva Teudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute. Il n'en resta rien. Après lui se leva Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. » Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Prenez garde de peur que de vous trouver en guerre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Puis ils appelèrent les apôtres et firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Libérés, les apôtres obéissent à Dieu et retournent au temple pour enseigner le peuple. À la nouvelle que ces hommes sont dans le lieu cultuel et enseignent au sujet de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, les chefs religieux et du peuple envoient leurs gardes pour à nouveau les arrêter. Bien que le texte nous apprend qu'ils avaient été perplexes d'apprendre que les apôtres avaient disparu de la prison, leur incompréhension des faits aurait dû les amener à se dire que Dieu est derrière tout cela et les amener à changer de position. Mais voilà, au lieu de reconnaître l'œuvre de Dieu, ils voient dans la façon d'agir des apôtres une provocation, un non-respect de leur autorité et une menace de leur reconnaissance comme conducteurs spirituels du peuple. Aussi, ils les font arrêter pour qu'ils comparaissent devant eux, afin qu'ils puissent les interroger. C'est la plus haute autorité religieuse qui va intervenir pour leur rappeler qu'ils n'ont pas obéi à leur interdiction d'enseigner ce nom-là pour parler de Jésus. Et de plus, qu'ils n'apprécient pas que les apôtres enseignent qu'ils considèrent que ce sont eux les responsables de la mort de Jésus. L'apôtre Pierre, en quelques mots, va tout à la fois répondre à ses interlocuteurs et il va aussi exposer les grandes vérités du plan de Dieu au sujet du Messie. Ces vérités se résument ainsi. Notre Dieu a ressuscité Jésus, lui le Messie, lui que vous avez tué sur une croix. Mais Dieu l'a élevé comme prince et seigneur, ce qui nous sous-entend la résurrection de Jésus et de ce fait que Jésus est bien le Messie promis au peuple de Dieu. Eux, les religieux, l'ont rejeté. Jésus a été donné pour permettre la repentance et pour offrir le pardon des péchés par son intermédiaire. Puis Pierre, de conclure que les apôtres ont été témoins de ces choses, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection et de l'ascension de Jésus, et que le Saint-Esprit, donc troisième personne de la Trinité, l'a aussi témoigné fortement. Donc, vous noterez qu'avant cet exposé de ces vérités, Pierre rappelle à ces hommes qu'ils se disaient serviteurs de Dieu et fidèles à sa volonté. Il rappelle un principe fondamental pour être dans le plan de Dieu. il leur dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce qui sous-entend, bien sûr, plutôt qu'aux hommes, s'ils demandent de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ce n'est pas la première fois que Pierre affirme ce principe face à ces mêmes religieux qui leur avaient demandé déjà de ne plus enseigner le nom de Jésus. Pierre et Jean, alors, dans la première fois, avaient rétorqué « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Chapitre 4, verset 19. Car ils voulaient rester fidèles à Dieu, qui leur avait confié la responsabilité de témoigner de la foi en Jésus-Christ. Suivre alors l'ordre des religieux de ne plus le faire était à leurs yeux une désobéissance au Seigneur, à Dieu. La position des apôtres nous donne quelques enseignements. Elle souligne l'importance de prendre au sérieux l'ordre que le Seigneur a confié à ses apôtres. Mais aussi, cet ordre, il a confié à chacun de ses disciples. Allez, faites des disciples en annonçant, en témoignant de l'Évangile. On voit que les apôtres avaient compris leur mission, la raison de leur appel, la raison de leur vie, et qu'ils voulaient l'accomplir quoi qu'il en coûte. Aussi, l'avons-nous compris? Leur exemple nous rappelle que nous devons aussi considérer comme primordial de rester fidèles au Seigneur. La position des apôtres face à l'adversité nous montre qu'il est important de garder dans nos cœurs face à l'adversité. Donc, nous montre qu'il est important de garder dans nos cœurs ce que nous avons appris de Dieu, de ce qui est juste pour nous y référer et pour vouloir aussi l'appliquer pour nous. Les apôtres avaient à cœur de plaire à Dieu. Et nous, est-ce que nous avons à cœur de plaire à Dieu ? Désirons-nous lui obéir, quoi qu'il en coûte? Est-ce que nous savons prendre des positions conformes à la volonté de Dieu et nous y tenir? Ou est-ce que nous pouvons relativiser un ordre du Seigneur parce que cela nous arrange ou pour ne pas se risquer? Attachons-nous à ce que nous savons être la volonté de Dieu, de ce qui est juste, afin d'avoir une vie qui sert notre Dieu et le glorifie. Car le croyant fidèle a une vie qui est un témoignage de l'œuvre de Dieu en lui. Dans ce temps difficile que nous rencontrons, avec cette pandémie et de nouveau ce confinement, oui, vivons avec Dieu. Montrons que même si notre vie d'église tourne au ralenti, oui, manifestons que nous avons foi en notre Dieu, et que le désir de notre cœur est de rester attaché à sa personne en vivant notre quotidien avec lui. On voit aussi, dans la position des apôtres, on voit aussi donc dans cette position de fidélité qu'ont les apôtres, dans leur déclaration, que donc cette position et cette déclaration sont un témoignage pour ceux qui les entendent et les voient vivre. Ces chefs religieux se disaient être des hommes donc fidèles à Dieu et leur entêtement de rejeter le Christ Jésus manifestait le contraire, leur désobéissance à Dieu. Bien que mis devant de nombreux faits qui auraient dû les amener à croire au Seigneur Jésus, ces hommes s'obstinaient à nier l'évidence et ils laissaient alors leur jalousie donc conduire leur cœur. Face à cet aveuglement, face à des hommes qui devaient obéir à Dieu, mais faisaient le contraire, Pierre, donc, va être utilisé par Dieu. Pierre, cet homme du peuple, va les interpeller encore par sa fidélité à Dieu, pour qu'ils changent donc de cœur, eux qui se disent fidèles, mais qui ne le sont pas. Malheureusement, nous oublions bien souvent que les pires adversaires de Dieu doivent aussi pouvoir être interpellés par le message de l'Évangile. Car ils peuvent aussi changer de cœur et s'ouvrir au Seigneur. Malheureusement, nous pouvons considérer que les personnes hostiles au Seigneur et peut-être à nos personnes ne pourront jamais changer de vie en se tournant vers Dieu. Et quand nous avons ces pensées, il est clair que nous n'avons pas alors le désir de témoigner à ces personnes et c'est bien dommage. Car Dieu peut toucher aussi leur cœur. D'ailleurs, on peut se demander, dans notre texte, si le propos de Pierre n'a pas influencé la réflexion de ce docteur de la loi, Gamaliel, que nous voyons par la suite, qui va rappeler à ses confrères que ce mouvement, c'est-à-dire donc cette église naissante, s'il ne vient pas de Dieu, ce mouvement, alors il se détruira avec le temps. Mais s'il vient de Dieu, ils ne pourront le détruire, tout en les mettant en garde de ne pas s'opposer à Dieu. Ce qui laisse entendre une ouverture spirituelle de cœur, en tout cas celle de Gamaliel. Ainsi, nous témoignons par notre attitude et par nos paroles et de notre fidélité à Dieu, et cela interpelle. Même ceux qui veulent nous faire taire ou nous faire du mal. Gardons cela à notre cœur, pour nous encourager dans notre témoignage. Pour conclure, la fin du chapitre nous apprend que les apôtres sont encore libérés, mais pas sans avoir été battus de verge. De nouveau, ils reçoivent l'ordre de ne pas parler de Jésus. Ce traitement injuste est douloureux, et cet ordre n'a pas l'effet souhaité, car au lieu, en tout cas par les religieux, car au lieu de les paralyser ou de les placer dans une crainte, les apôtres alors sont heureux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages, ouais, des outrages pour leur Seigneur. Aussi, chaque jour, nous dit le texte, ils vont continuer à obéir au Seigneur en allant au temple pour annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Alors, retenons leur exemple. Leur exemple de foi, leur exemple d'amour pour Dieu, leur exemple de zèle pour témoigner, afin que nous soyons aussi encouragés à rester attachés au Seigneur Jésus, quoi qu'il en coûte, quoi que nous vivions, et afin aussi que nous ayons la volonté d'être toujours ses témoins. Oui, que Dieu nous y aide. Nous voulons, Père éternel, te remercier pour ta parole et pour encore le texte d'aujourd'hui, l'exemple des apôtres, leur désir de t'obéir, quoi qu'il en coûte, leur désir d'accomplir la mission que tu leur as confiée. Merci que cette mission, tu nous as confiée aussi, pour que nous puissions être aussi des témoins, aide-nous à l'être, et dans ce temps difficile, Seigneur, aide-nous à compter sur toi, pour que tu agisses puissamment, afin que les choses s'améliorent dans cette situation, afin que nous puissions aussi manifester à ceux qui nous entourent que nous sommes tes enfants, que tu es notre Dieu, que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, et que c'est la vie. Alors Seigneur, conduis ton Église, garde-la pendant ce temps particulier, et puis Seigneur, aussi garde chacun de nous, et donne-nous d'aller de l'avant avec toi. Amen.